Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute!
Bienvenue au Pharmascope.
Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUS du Nord de l'île de Montréal.
Allô, moi c'est Isabelle Hébert, je suis médecin de famille au CIUS du Nord de l'île de Montréal, au GMFU Sacré-Cœur.
Bonsoir, moi c'est Olivier Massé, je suis pharmacien au CIUS du Nord de l'île de Montréal.
Hey, on est tous là!
Ben oui, après les vacances.
T'attends toujours les miennes. Comment ça va?
Ça va bien.
Ça va, ça va.
Bon, êtes-vous prête? Êtes-vous en forme? Êtes-vous reposée?
Eh là là, non. Moi, ça fait longtemps que mes vacances sont passées, je suis reposée pendant tout. En plus, c'est la rentrée scolaire qui s'en vient bientôt, là. Pas prête tout à fait encore pour ça.
C'était une grosse préparation d'épisode, là. Ça m'a donné un peu de maux de tête.
Aïe. Hey, ça fait longtemps qu'on a eu le droit
ben
à
oui,
ça, hein?
Ben oui.
Il prend la relève de Seb vraiment au sérieux, Oli, hein?
Ben quand même, hein, on m'a coaché, là.
Fait que aujourd'hui, ben oui, on parle de migraines. Mm-hmm. Fait qu'on on a déjà parlé de migraines à gauche puis à droite, là, sur des sujets plus spécifiques. On a fait il y a super longtemps, Isa, un épisode où on abordait la contraception hormonale, ou en tout cas la thérapie hormonale et la migraine, là, toutes les histoires de qu'est-ce qu'on peut donner à une femme avec migraine, avec aura, sans aura, c'est quoi les risques, pis ci, pis ça.
Je pense que c'est les notes dans lesquelles je suis le plus souvent retournée depuis.
Ah ouais, c'est vrai?
Toutes ces années, oui, oui.
Intéressant. Sinon, plus récemment, on a fait des épisodes sur les nouveautés pharmacologiques qui sont arrivées là, au fur et à mesure que les années ont passé. Fait que les GEPAN, plus récemment. Historiquement, là, mais ça doit faire un méchant bout. Là. Je me souviens plus en quelle année ils sont arrivés. On avait fait un épisode probablement sur les anti-CGRP. On dirait que c'est rendu des vieux médicaments maintenant.
Ouais, mais tu vois, tout ça, là, je suis pas allée voir les notes.
Je sais pas qu'est-ce que ça dit comme information, ça, Isa. Fait que voilà. Donc, on a décidé de faire finalement vraiment plus le tour de la migraine dans son entièreté. Fait qu'une classique série d'épisodes revue d'une condition de santé. Fait qu'on s'attend à faire probablement 3 épisodes, je dirais.
Oui, on sait pas quelle durée, par exemple.
Ah, ça, non. Mais non. On est chanceux, je pense. C'est une condition de santé qui se coupe bien en morceaux.
Mmh.
Puis on a décidé de commencer ça par, je pense aller un peu de soi, par la partie, généralité sur la migraine, physiopatho, présentation clinique, diagnostic et compagnie, et aborder le traitement aigu d'un épisode migraineux. Dans les prochains épisodes, on pourra aborder le traitement prophylactique de la migraine et éventuellement la migraine chronique et la céphalée d'origine médicamenteuse.
Un bon plan de match.
Gros plan. Gros. J'espère que vous êtes en forme.
C'est ambitieux.
Alors, sans plus tarder, si on veut arriver à une fin, Mme Hébert, voulez-vous commencer ça tout de suite avec un peu de généralité?
Ben oui. Fait que si on parle un peu du côté épidémiologie, hein, c'est assez commun, la migraine, 12 à 15 % de la population adulte, avec un ratio de 3 femmes pour un homme, donc quand même pas mal plus de femmes qui sont atteintes. C'est quelque chose qui commence généralement avant 35 ans. Mais un bon côté de vieillir, c'est que pour les gens qui font des migraines, ça a tendance à diminuer avec l'âge. Ça, c'est... Il n'y a pas beaucoup d'avantages de vieillir, mais c'en est un.
C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, hein? Moi, en tout cas, je ne les ai pas trouvés, mais aïe, aïe, aïe.
On a le premier de la liste.
Ça n'améliore pas avec les années, hein?
Généralement, non. Non, généralement, malheureusement, non. Fait que qu'est-ce que vous savez, les migraines, c'est des céphalées qui sont assez sévères puis incapacitantes. Puis qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui déclenche ou qu'est-ce qui explique ces céphalées-là? Bien souvent, il y a un stimulus qui est déclencheur puis qui n'est pas toujours bien identifié par le patient, mais ça peut aller dans plusieurs directions, le manque de sommeil, le stress, le jeûne, certains aliments, les variations hormonales, on pense au cycle menstruel chez les femmes, par exemple. Fait qu'il va y avoir quelque chose qui va déclencher, mais c'est pas exactement clair comment le processus fonctionne. Puis après ça, ben la douleur comme telle, elle vient d'une hyper-excitabilité neuronale. Fait qu'il y aurait une activation qui serait anormale au niveau de certaines voies du tronc cérébral, dont le système trigémino-vasculaire qui implique le nerf trigémeau. Et là, on aurait l'activation de ces neurones qui libèrent des peptides vasoactifs, dont le plus connu est le CGRP, qu'on peut traduire en français comme le peptide lié au gène de la calcitonine et qui est impliqué dans plusieurs recherches là, qui ont mené à, à l'élaboration de certains médicaments. Et ces peptides vasoactifs-là vont causer de la vasodilatation des artères méningées, puis des réactions inflammatoires locales, puis tout ça va se traduire en signal douloureux, puis ça va être transmis au niveau du cortex.
Si j'ai bien compris, tu t'es dit on n'a pas d'invité aujourd'hui, fait que je vais y aller all-in.
Hey, j'ai pensé en écrivant le CGRP, j'ai dit, bon, Nico, il va dire que j'invente des mots, là. Mais je veux pas aller plus loin que ça parce que de toute façon, c'est bien trop compliqué pour moi, là. Je suis pas assez brillante pour ça.
Parce qu'il y en a d'autres, là, tu t'es limité, là, la neuroquinine
Oui,
A,
oui.
la substance P, puis plein d'autres patentes là, qui me paraissent farfelues.
Toutes sortes de substances, là, qui viennent faire des actions dans notre cerveau qui sont transmises comme de la douleur. Il y a des facteurs de risque pour les migraines, dont je disais tantôt être une femme, mais il y a aussi une forte prédisposition génétique. Si on regarde la présentation clinique, il y a typiquement quatre phases à la migraine. Il y a le prodrome, qui est une espèce de ramassis de symptômes qui vont, ben des pré-symptômes si on veut, là, qui apparaissent quelques heures ou quelques jours avant la réelle céphalée et qui sont des symptômes variés. Qui vont, je vais vous en nommer des exemples là, pour que vous ayez une meilleure idée, là, mais c'est très, très varié justement. Des bâillements, des nausées, de la fatigue, de la pâleur, des difficultés de concentration, là, le fameux flou mental, des raideurs au cou, des photophobies, phonophobies, osmophobies, de l'alodynie, une exacerbation de l'anxiété, l'irritabilité, bref. Il peut avoir toutes sortes de symptômes qui sont variés et qui, avec le temps, deviennent associés à un prodrome de la céphalée, fait que de la migraine. Fait qu'au départ, ça ne va pas nécessairement être identifié comme ça, mais à un certain point, l'individu va finir par reconnaître ces symptômes-là parce que ça, c'est constant dans le temps. C'est très variable d'une personne à l'autre, mais chez le même individu, ça va être constant dans le temps.
C'est quand même excessivement difficile à identifier pour les patients, je trouve. J'ai pas beaucoup de patients dans l'histoire qui ont réussi à trouver leur prodrome. Je sais pas vous autres. C'est tellement peu spécifique comme patente, là. Mais c'est quand même pratique parce qu'une fois que tu l'as trouvé, bon, malheureusement, ça va pas nécessairement t'empêcher d'avoir ta migraine au bout du compte, là. On y reviendra quand on parlera de traitement. Mais ça peut quand même t'aider à gérer ton horaire, tu sais. Non, mais pense-y, je veux dire,
Clairement.
si tu sais que tu vas avoir une migraine dans la journée, ben, tu vas peut-être finir ta journée de travail plus vite, tu vas peut-être annuler ton sport restaurant avec des amis, tu sais, je sais pas, là, mais quelque chose de quand même pratique dans le fait de pouvoir identifier son prodrome, certainement.
Puis peut-être sur le moment de prise de médicaments, on pourrait revenir plus tard, là.
Exact, exact.
Ouais.
Ça touche quand même beaucoup de monde, là, c'est quasiment une personne sur deux qui va en avoir, là, mais bon, la recherche, en effet, de la présentation du prodrome pour chaque patient est difficile.
Exact.
Après la phase du prodrome, il y a parfois une phase d'aura qui va se représenter chez 25 à 30 % des personnes qui font des migraines et qui sont des symptômes plutôt neurologiques annonciateurs de la céphalée qui précèdent de quelques minutes la céphalée. On y reviendra bientôt. Ensuite, il y a la céphalée qui est là, le classique là, unilatéral, pulsatile, d'intensité modérée à sévère, là, puis c'est aggravé par l'activité physique. On y revient aussi avec les critères diagnostiques bientôt. Et après la céphalée, une fois qu'elle est résolue, il y a le postdrome qui ressemble au prodrome, mais qui arrive après la céphalée. Donc, ça peut durer jusqu'à 48 heures après. Et ici aussi, les symptômes sont variés, raideur au cou, sensibilité du cuir chevelu, encore le brouillard mental, difficulté de concentration, des fois une fatigue là, est caractérisée jusqu'à une asthénie. Et au niveau de l'humeur, là, ça peut ressembler à l'irritabilité, à une humeur plus dépressive ou au contraire, à une espèce d'euphorie. Ici aussi, c'est très variable et ça, j'imagine que c'est plus facile à identifier parce que, bon, la céphalée est passée, mais spontanément, les gens ne nous parlent pas nécessairement de post-drôme non plus, là.
En effet.
Non, on peut imaginer que beaucoup le vivent en dormant. Donc le vivent
Oui.
peu ou pas, là, parce qu'ils viennent de se taper une migraine. Mais puis au bout du compte, bon, il n'y a rien à faire sur un post-drôme. Fait que peu de valeur, j'imagine, en termes de clinique. Mais fun fact intéressant, mettons. OK? Fait que tu disais qu'on va venir aux critères diagnostiques pour préciser la présentation clinique?
Ouais. Le diagnostic de la migraine, c'est un diagnostic qui est clinique. On n'a pas de prise de sang ou d'imagerie qui vont nous confirmer le diagnostic. Donc, on se base sur des critères diagnostiques qui ont été élaborés par l'ICHD, l'International Classification of Headache Disorders, et c'est la troisième version de laquelle on va parler aujourd'hui, qui est la plus récente. Alors, ils ont plusieurs définitions de migraine, celle qui va nous toucher particulièrement, ben, on a la migraine sans aura qui est diagnostiquée ainsi. Là, les critères sont les suivants. Alors, on parle de céphalée qui arrive chez quelqu'un avec un nombre supérieur ou égal à 5 crises. Donc, la plupart du temps, quand on va faire un diagnostic de migraine chez quelqu'un, c'est pas après un seul épisode, là. Il y a un certain recul avec plusieurs crises. Mais ce qui caractérise les crises, c'est que les céphalées durent de 4 à 72 heures. Fait que c'est une période qui est quand même assez prolongée. C'est sûr qu'une fois que les gens prennent des traitements, bien, ça peut raccourcir la durée de la céphalée, là. Mais une céphalée sans traitement va durer jusqu'à 72 heures. Ensuite, c'est une douleur qui a au moins deux des quatre caractéristiques suivantes, c'est-à-dire unilatérale, pulsatile, d'intensité modérée à sévère et aggravée par l'activité physique. Donc, ça en prend deux des quatre. Ensuite, on parle souvent des symptômes accompagnateurs quand on parle de la migraine, hein, nos fameux nausées, vomissements, photophobie, phonophobie. Mais on veut que pour faire un diagnostic de migraine, il doit avoir au moins un de ces symptômes suivants-là qui accompagne la céphalée. Et le fameux critère là qu'on voit souvent qui est non expliqué par une autre pathologie. Ça, c'est notre céphalée sans aura. Maintenant, si on regarde la céphalée avec aura, ben, on va avoir plus de deux crises. Là, on va avoir des céphalées qui ressemblent à ce qui a été nommé, mais en plus, on va avoir au moins un symptôme qui est entièrement réversible d'aura. Et ce sont des symptômes qui sont neurologiques et qui peuvent toucher soit le côté visuel, sensitif, la parole, le langage, ça peut être moteur, ça peut impliquer le tronc cérébral ou ça peut être un symptôme rétinien. Donc, ça prend au moins un de ces symptômes-là.
Soyons clairs, quand même, la très, 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 très grande majorité des auras, c'est visuel, là.
Oui. Exactement. Le plus souvent, c'est des symptômes visuels, donc on peut penser à des scintillements, voir des lignes zigzags, avoir la vision floue, là, c'est assez typique. Mais effectivement, ça peut toucher d'autres types de symptômes. C'est par exemple sensitif, on peut parler là, des paresthésies, on parlait des troubles de langage, avoir une aphasie transitoire. Fait que mais effectivement, le plus souvent, c'est visuel.
Je pense que les stats, c'est genre 90% des auras, là, c'est visuel principalement. Là. Puis peut-être juste pour clarifier, parce que ça m'est arrivé à quelques reprises d'entendre une certaine confusion là-dessus. La photophobie ne compte pas comme un symptôme visuel d'aura. On est vraiment, comme tu l'as dit, dans le symptôme ça, de migraine à proprement parler, là.
Oui, exactement. La photophobie fait partie des caractéristiques de la céphalée, mais c'est pas un symptôme comme rajouté, là. C'est comme la céphalée est tellement intense qu'on tolère pas la lumière, mais c'est pas comme un symptôme neurologique ajouté.
Parfait.
Ensuite, pour les gens qui ont ces symptômes d'aura-là, ça prend au moins 3 des 6 caractéristiques suivantes. Puis là, ben, tu disais que c'est un peu aride, mais je vois pas comment je peux ne pas les nommer, là.
Ouais, juste un peu, là.
Ouais, c'est ça. Fait que 3 de ces 6 caractéristiques-là. Donc, la première, c'est au moins un symptôme d'aura qui se développe progressivement sur plus de 5 minutes. Donc, ça prend quelque temps avant d'être complètement présent. Ensuite, 2 ou plusieurs symptômes d'aura qui surviennent successivement. Donc, ça, c'est pas un critère obligatoire. On rappelle 3 de 6, là, mais c'est une possibilité qu'il y ait 2 ou plusieurs symptômes d'aura. Ensuite, le troisième élément, c'est chaque symptôme d'aura dure entre 5 et 60 minutes. Ensuite, il y a le quatrième élément, c'est au moins un symptôme d'aura est unilatéral. Le cinquième, c'est au moins un symptôme d'aura est positif. Quand on dit positif, c'est en opposition à un symptôme négatif qui serait une perte de fonction. Donc, par exemple, une perte de la vue ou une aphasie. Et la dernière caractéristique, c'est l'aura est accompagnée ou suivie dans les 60 minutes d'une céphalée.
Ce qui est quand même cool, c'est que tu l'as dit, c'est 3 sur 6, fait que t'es pas obligé dans les faits d'avoir une céphalée.
Ouais.
J'avais jamais remarqué.
C'était là, tu sais, je me disais, Je l'aurais peut-être mis tout seul là, dans les critères, mais ça fait partie des six. Puis encore là, ben, il ne faut pas que ces symptômes neurologiques soient mieux expliqués par un autre diagnostic.
Parfait.
Donc, ceci étant dit, on disait que c'est un diagnostic clinique, est-ce qu'il y a des investigations qu'on peut faire? Ben, une investigation qui est très simple, qui ne coûte rien, qui prend un petit peu de temps seulement, c'est de faire un journal des céphalées. Ça peut nous permettre permettre à notre patient de détailler la fréquence, l'intensité, la durée, les déclencheurs, puis quels traitements ont été essayés. Fait que ça nous aide surtout dans un but d'améliorer le traitement, là, une fois qu'on a notre diagnostic. Mais ça fait quand même partie des investigations possibles. Puis après ça, on peut se questionner, est-ce qu'on doit faire une imagerie pour nos patients qui présentent des migraines? Et la réponse de Choosing Wisely et de la plupart des sociétés savantes, c'est que non. On ne devrait pas faire de neuroimagerie chez les patients qui ont des symptômes typiques de migraines, qui ont un examen physique normal, qui ont pas de drapeau rouge là, qui serait associé à une céphalée secondaire, comme par exemple de la fièvre, une aggravation avec la posture, un début ou une fin de céphalée qui serait atypique par rapport aux symptômes qu'on disait, des signes ou des symptômes neurologiques à l'examen, un papillédème à l'examen physique, par exemple. Fait que tout ça nous alignerait vers des étiologies possiblement secondaires ou avec des causes potentiellement graves. Fait que là, on aurait besoin d'une imagerie. Mais si on a un patient qui vient nous voir ou une patiente qui a des épisodes de migraine qui arrivent à telle fréquence, ça fait tant de temps, puis qui a pas en plus, quand on le voit, il n'y a pas de céphalée aiguë pendant qu'on l'évalue. Ben là, on n'a pas de critères du tout pour faire ces examens-là de neuroimagerie. Puis ce qui a été démontré, c'est que les trouvailles vont être à peu près dans le même pourcentage que dans la population générale. Fait que ça nous mène vraiment à du surdiagnostic. Ça nous mène à plus de stress chez ces patients-là qui vont se croire plus malades. Ça va nous pousser à faire d'autres examens. Fait que finalement, on évite de faire ça autant que possible.
On pourrait mettre le lien là, sur le site web dans nos références, là, comme toujours, là, mais il y a apparemment un truc mnémotechnique là, pour les fameux red flags là, en migraine, le Snoop Cap, qui j'ai toujours trouvé est un des pires trucs mnémotechniques que j'ai jamais fait parce que, bon, en tout cas, je ne sais pas, c'est peut-être juste moi, mais SNOOPPPP, puis toutes ces lettres-là correspondent à des affaires, ma foi, qui je trouve vont dans beaucoup de directions. Le P va de papillodème à. Postural aggravation à precipitated by Valsalva, là, je veux dire.
Bel essai, mais bon, c'est ça.
Il y a vraiment
Non,
quelqu'un qui s'est
c'est.
forcé pour mettre des lettres dans un ordre puis essayer que ça se lise, là.
Ouais, puis c'est très peu utile. C'est vraiment difficile de s'en rappeler.
Fait qu'on mettra le lien, là, s'il y en a qui en ont besoin. Excellent. Il y avait-il autre chose qu'on voulait dire sur plus la partie évaluation de la migraine?
C'était très clair.
Ben, je pense qu'on peut rentrer dans le traitement.
Allons-y.
Fait que traitement aigu aujourd'hui, pour commencer, on a dit. Donc, petit mot peut-être sur les objectifs du traitement aigu. Puis je pense que c'est important toujours de se rappeler ça, puis de le dire aussi à nos patients. Hein? Soyons clairs là. Le patient qui pense que son traitement, peu importe ce qu'il est, va être efficace complètement, 100% du temps, il risque d'être déçu par bout, là. Fait que je pense que c'est important de le rappeler à nos patients, comme dans d'autres conditions douloureuses. L'objectif de nos traitements, oui, tant mieux si on réussit à soulager complètement le patient, mais dans beaucoup de cas, on va pouvoir diminuer l'intensité de la douleur, on va pouvoir diminuer la durée de la douleur, puis ultimement diminuer ben, l'impact de la migraine. Hein. On le sait, la migraine, c'est associé à énormément d'absentéisme, puis ci, puis ça. Fait que, mais je pense que c'est important quand même de se rappeler ça puis de le dire à nos patients. Parce que non, nos pilules sont pas parfaites, évidemment. Typiquement dans les études, on regarde beaucoup d'issues justement liées à tout ça, là. Fait que on va en parler de certains quand on va parler des traitements. Mais s'il y en a qui s'intéressent vraiment là, dans les études, vous allez pouvoir voir des issues assez variées. Fait qu'on va parler de soulagement à 2 heures, qui est pas mal l'issue la plus fréquente, je dirais. Puis soulagement veut pas dire en fait soulagement complet. Soulagement, c'est défini généralement comme une amélioration significative. Puis dans les faits, comment ils évaluent ça, c'est que sur une échelle de 4 points, le patient est passé d'une douleur dite modérée ou sévère à une douleur dite légère ou absente. Ensuite de ça, on va souvent nous rapporter aussi le dit soulagement complet à 2 heures. Après ça, des fois, on va nous rapporter des issues du même genre, mais à plus long terme, à 24 heures, des fois même à 48 heures. Puis après ça, bon, on va voir un paquet d'issues variées, des trucs comme le soulagement du symptôme le plus dérangeant initialement pour le patient, qui n'est pas nécessairement la douleur, évidemment. On va voir des trucs comme le soulagement de certains éléments précis, comme les nausées, comme ci, comme ça. Le retour au fonctionnement dit normal. Fait que, il y a bien du stock. On va se concentrer sur, je pense, là, lit, soulagement à 2 heures, soulagement complet à 2 heures, surtout pour aujourd'hui.
Oh oui, clairement.
Ça permet de mettre les choses en perspective.
Ben oui, ben oui. Puis c'est les issues qui sont les plus rapportées par les études. Là, après, pour les autres, c'est rapporté de façon plus fragmentaire. Donc, souvent, c'est un petit peu plus difficile de donner des chiffres très clairs sur ces autres issues-là.
Parfait. Évidemment, pas oublier aussi que, tu sais, je veux dire, dans la majorité des cas, une migraine va finir par s'améliorer aussi, là, même si tu prends pas de médicaments. Fait que dans les groupes placebo, on a des taux de réponse relativement importants. Fait que si on regarde, par exemple, la réponse au traitement, là, le soulagement significatif, souvent dans les groupes placebo, on va avoir des chiffres entre 15 et 25 %. Si on regarde le soulagement complet à 2 heures, on va avoir des chiffres plus de l'ordre de 20 %. Dans des études plus vieilles, des fois, ça monte plus, mais grosso modo, dans ce genre-là. Fait que, on va voir si nos médicaments se démarquent de ça. Avant de rentrer dans les pilules, il y a des mesures non pharmacologiques, évidemment, qu'on peut mettre en place. Fait que tu parlais tantôt, Isa, de faire des journaux de la migraine. Un terme qui vieillit mal quand même, parce qu'on va se dire, là, je pense pas qu'il y a personne ici qui imprime encore les fameux journaux. Là. Mais on faisait ça, hein? T'as connu ça comme moi, Isa, j'imagine?
Oui, oui, oui. Mais maintenant, il y a des applications.
Ben oui, 2025. Fait que, tu sais, quelques exemples, là, puis on fait pas de promotion d'implication plus que l'autre. Il y en a des tonnes, puis vous irez jouer avec si vous en connaissez pas, mais notamment Migraine Québec. Au niveau canadien, il y a le Canadian Migraine Tracker qui existe, Migraine Buddy qui est en français, en anglais, puis tout ça. Puis il y en a plein d'autres qui permettent non seulement aux patients, là, selon l'application, de documenter leur épisode migraineux avec, par exemple, ce qu'ils faisaient avant pour identifier avec le temps les facteurs déclencheurs, de documenter aussi les traitements qu'ils ont pris, la réponse qu'ils ont eue. Puis il y a même certaines de ces applications-là maintenant qui ont un peu de travail. Donc, c'est-à-dire que l'application réussit parfois avec le temps à analyser les données que tu rentres à l'intérieur, puis peut, au bout du compte, de faire des propositions sur des facteurs déclencheurs. Parce que c'est pas évident, là, vous le voyez comme moi avec vos patients, j'imagine, là, c'est cute de dire aux patients, ah, en passant, à peu près n'importe quel aliment sur Terre peut déclencher des migraines. Fait que, tu sais, gardez l'œil ouvert si vous trouvez un aliment qui semble être plus fréquemment en cause pour vous. C'est pas si simple que ça, là. Tu sais, mettons, si tu regardes la liste d'aliments là, qui peuvent déclencher les migraines, elle est longue comme le bras, puis elle inclut des affaires genre les lentilles, les aliments gras. Fait que c'est un travail qui est quand même plus difficile à faire, je pense, qu'il n'y paraît. Fait qu'avec une application, parfois, je pense que ça peut faciliter le truc. Puis au-delà des aliments, là, tu parlais tantôt de fatigue, de stress. C'est probablement l'une des seules. En tout cas, moi, c'est la seule qui me vient en tête. Puis j'en ai un patient récemment qui m'a rapporté ça. Puis je suis un peu jaloux. Lui, son problème, c'est qu'il fait des migraines quand il dort trop. Puis je suis bien ambivalent sur la réaction à privilégier. Mais
fait que peut se permettre de dormir trop?
Ben, apparemment. C'est une partie de moi qui est comme empathique, puis une partie de moi qui est comme l'inverse.
Un peu jaloux, là.
Fait que, mais sinon, ça va même, tu sais, au niveau environnemental, on peut penser à des bruits, des lumières, des odeurs, l'altitude, la météo. Ça va vraiment dans tous les sens, même au niveau substance. Hein, bon, c'est pas de la littérature super claire, mais tu sais, on pense tout le temps, par exemple, à la thérapie hormonale, justement, là, et le lien avec les migraines. Mais il y a d'autres affaires comme les IPP, les ISRS qui ont été associés à une augmentation possible au déclenchement possible de migraines. Fait que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être liées au déclenchement de migraines. Je pense que ça vaut la peine de faire un bon counseling avec les patients là, quand on parle de ça, puis oui, leur proposer d'aller chercher des outils pour s'aider, certainement. Sinon, dans le non-pharmaco, ben, on peut pas passer sous silence là, la débarbouillade d'eau froide, le noir et le silence, bref, s'enfermer dans sa chambre.
Mm-hmm.
Fait que ça, c'est pas mal les trucs simples. Sinon, au niveau non-pharmaco, il y a des trucs un petit peu plus sophistiqués en 2025. Là, je vais vous en parler rapidement de certains. Alors, on est rendu avec des études randomisées contrôlées sur un paquet de cossins, littéralement, mais qui ont une mise en application au Québec, là, assez nichée, vous allez comprendre rapidement. Fait que, on mettra dans les références, là, il y a une méta-analyse notamment qui date de 2021, publiée dans le JAMA, puis qui incluait, on voit pas ça souvent, là, souvent c'est les pilules, mais qui incluait ici les mesures non pharmacologiques, puis ils ont quand même trouvé 18 essais randomisés contrôlés, puis bon, presque presque 2000 participants. Puis là, ben, c'est des affaires, vous allez voir, un peu weirdo, là. Des trucs comme de la stimulation électrique. Il y a des bidules qui existent, qui sont officiellement pas disponibles au Canada, mais on va se le dire, en 2025, avec Internet,
Tout est disponible.
tout est disponible, j'imagine. Fait que notamment, là, il y a un appareil qui a été évalué dans une étude randomisée contrôlée, qui est, au bout du compte, une patch que tu te mets sur le bras. Puis quand tu l'actives, là, ben, visiblement, là, te donne des décharges électriques qui fait de la neuromodulation. Puis bref, dans une étude randomisée contrôlée de 252 participants, là, ils ont réussi à démontrer ben, une amélioration plus importante que l'absence du bidule là, sur justement le soulagement à 2 heures. Puis ça. J'ai vu entre autres un appareil qui semble être disponible aux États-Unis, le Nerivio. Je vous le dis vraiment pour information, là, mais je pense qu'on est rendu ici pour des patients qui sont plus loin dans le processus là, de prise en charge de la migraine. Je suis pas sûr que c'est des cossins très, très première ligne. Dans le même ordre d'idée, des cossins de stimulation du nerf trijumeau. Ça, je vous encourage à aller le voir parce que ça a un style, ma foi, pas piqué des vers. C'est comment je décrirais bien ça? C'est un peu comme si tu mettais un étui à écouteur dans le milieu du front. Tu te le colles là. Ça, ces affaires-là sont pas données, hein? Vous le devinerez. Si je parle justement du cossin pour la stimulation du nerf trijumeau, là, au Canada, on a le céphalie. Chapeau pour le jeu de mots quand même ici. On parle d'à peu près, genre, là, il y a différents modèles, là. J'en connais pas plus qu'il faut sur le sujet, mais on est autour de genre 700 $ canadiens pour l'appareil, puis il faut acheter des électrodes aussi après ça sur une base régulière, puis tout ça. Mais quand même, faut leur donner ces appareils-là qui ont fait l'objet aussi d'études randomisées contrôlées avec des résultats positifs. Dans le même ordre d'idée, la stimulation magnétique transcrânienne, dont on entend plus parler en ce moment au Québec pour la dépression notamment ou d'autres troubles de santé mentale, c'est offert dans certaines cliniques de neuromodulation. Mais ici, on parle vraiment d'un dispositif que les patients peuvent avoir à la maison. Encore une fois, à ma connaissance, c'est pas disponible ou approuvé au Canada, là. Puis finalement, un autre qui vaut la peine d'aller voir sur Internet, les patentes de stimulation du nerf vague. Puis c'est juste, il faut voir une vidéo d'utilisation pour comprendre, là. Allez voir. Tout ça pour dire que, il existe en 2025 des technologies récentes. Puis tu sais, tant mieux, là, parce qu'on va le voir avec nos pilules. Nos pilules ont des limites, ne fonctionnent pas pour tout le monde, peuvent venir avec des effets indésirables, puis tout ça. Fait que je pense que c'est une bonne nouvelle pour les patients migraineux. C'est juste que c'est ça. Au Canada, en ce moment, ben, l'accès, le prix, puis tout ça en font des options plus limitées. La science reste encore, somme toute, assez limitée aussi sur ces sujets-là. Mais quand même. Sinon, dans la redite revue systématique du JAMA sur les mesures non pharmaco, on a aussi une section sur l'acupuncture. On dirait que je sais pas trop comment ça s'applique, l'acupuncture en traitement aigu de la migraine.
La fenêtre
Ça
de
sert à quelqu'un,
consultation
garde.
est courte, là.
Ouais.
Fait que voilà pour les mesures non pharmaco dans le traitement aigu de la migraine. Si on parle des pilules à cette heure, Ali.
Ah oui, nos fameuses pilules. On commence par quoi?
Ben, je pense qu'on n'a pas le choix, le classique.
L'acétaminophène. Tu sais, mine de rien, on rit, là, mais ça reste une option intéressante pour certains patients. C'est disponible en vente libre. C'est un produit sécuritaire et bien toléré si on l'utilise aux doses recommandées. Ça coûte pas cher. Il n'y a pas beaucoup d'interactions. Il n'y a pas beaucoup de contre-indications. Donc, il y a quand même des avantages très clairement à l'utilisation de l'acétaminophène. Par contre, la science qui soutient son efficacité est, disons, plus limitée que pour beaucoup d'autres traitements aigus de la migraine. Je pourrais résumer ça comme ça. On a une revue Cochrane qui a été publiée en 2011, qui a identifié 11 études randomisées contrôlées qui portaient sur l'acétaminophène dans le traitement aigu de la migraine. Seulement 4 études étaient contre placebo pour environ 1000 participants. La majorité des études utilisent l'acétaminophène à la dose de 1 gramme au besoin. Ça me semble quand même important de le préciser. Puis quand on regarde les résultats, l'acétaminophène était supérieur au placebo pour toutes les issues, disons, à court terme. Par exemple, 55% des participants sous acétaminophène obtiennent un soulagement à 2 heures contre 35% sous placebo. Ça donne un NNT d'environ 5. Quand on regarde, par contre, le soulagement complet à 2 heures, là, on est plus autour de 20% pour le groupe acétaminophène contre 10% pour le groupe placebo. Un NNT environ de 12.
Ben, c'est mieux que rien.
Moi, ma conclusion, c'est que, tu sais, on peut retenir que c'est quand même efficace pour certains patients, mais quand on regarde ces chiffres-là, soyons honnêtes, là, il y a quand même un paquet de patients pour qui l'acétaminophène ne va pas les soulager.
Après
Ceux
ça,
qui
ben.
répondent, c'est pas eux qui vont venir nous voir, là.
En effet.
Ben, dans le même ordre d'idée, il y en a probablement un paquet qui se rendent à l'ibuprofène.
Tout à fait. Donc, tu as de la suite dans les idées. Notre deuxième classe, c'est les AINS, pour lesquels on va se dire il y a quand même beaucoup plus d'études que pour l'acétaminophène. Il y a plusieurs avantages encore là avec les AINS. Tu en parlais, Nico, là, il y en a plusieurs qui sont disponibles en vente libre, notamment l'ibuprofène. Ça ne coûte pas cher. C'est des produits qui ont quand même une bonne efficacité. On va bientôt y revenir. C'est simple à utiliser pour plusieurs patients, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont déjà pris dans le passé. Donc, c'est des produits qui connaissent. Par contre, il y a quand même des désavantages, là. On ne va pas faire la liste complète, là, mais il y a des effets indésirables, notamment GI. Il y a des précautions à prendre avec le risque de saignement, notamment GI, l'inocuité cardiovasculaire, l'hypertension, la fonction rénale. On a des interactions. Bref, il y a quand même certains désavantages qui méritent une analyse plus poussée que l'utilisation de l'acétaminophène.
Okay, on entend plein de choses, sinon, sur le choix des AINS, là, il y en a qui ont comme pris un créneau un peu, pour penser au diclofénac, là, qui est sorti il y a quelques années sous forme de poudre, parce que comme ça agit plus vite pour
Évidemment.
seulement comme 22 fois le prix d'un autre AINS, là. Au bout du compte, pas mal toutes pareilles, ces affaires-là.
Ben, il y a énormément d'AINS qui ont été étudiés, puis chaque fois, ils ont des résultats positifs et qui sont tout à fait similaires, là. Donc, il n'y a pas d'agent à favoriser plus qu'un autre. C'est sûr qu'il y a toute la théorie de l'action plus rapide avec le fameux diclofénac en poudre, comme tu le mentionnais. Il y a peut-être des données pharmaco aussi sur le naproxène sous sa forme sodique, là, le fameux Aleve. Mais honnêtement, à ma connaissance, il n'y a pas d'efficacité clinique supérieure clairement démontrée avec quelconque AINS précis.
Parfait. Fait que là, la question, on a dit, c'est à peu près tout pareil, mais ça donne quoi les AINS?
Pour répondre à ta question, la revue systématique la plus récente qui porte sur l'efficacité des AINS a été publiée par le Collège des médecins américains au début de l'année 2025, donc l'ACP, en fait, qui est une grosse revue systématique qui a pas mal répertorié toutes les interventions pharmacologiques dans le traitement aigu de la migraine. Puis il y avait une section sur les AINS. Dans cette revue systématique-là, ils ont répertorié 17 études randomisées contrôlées d'AINS contre placebo qui rapportaient des données pour le soulagement de la douleur à 2 heures. Le tout pour, grosso modo, environ 7 000 participants quand même.
Quand même.
On va leur donner quand même beaucoup de participants. Puis ce qu'on a remarqué, les AINS entraînaient un soulagement complet de la douleur ou de la migraine à 2 heures chez 25% des participants sous AINS et 13% sous placebo, ce qui donne un NNT de 8. Et quand on regardait maintenant le soulagement à 2 heures, non pas le soulagement complet, mais une amélioration de la migraine, on remarquait 58% des participants sous AINS qui voyaient une amélioration versus 38% sous placebo, ce qui donne un NNT de 5.
Pas mauvais quand même.
Ben, moi, ma conclusion, c'est que c'est quand même des médicaments efficaces, là, on va se le dire. On a beaucoup plus d'études que pour l'acétaminophène, donc puis les résultats sont quand même un petit peu meilleurs, quoique ça n'a pas été beaucoup comparé directement, là, mais quand on regarde de façon un peu informelle les chiffres, on semble avoir une efficacité qui est quand même supérieure avec les AINS, là. Donc, c'est un choix de traitement tout à fait valable, là, pour un paquet de patients.
Certainement. En même temps, bon, ça nous montre que tu parlais de soulagement complet à 2 heures, 25 % grosso modo sur AINS. Fait qu'il en reste quand même un 75 % qui ont encore un peu mal à la tête ou plus.
Oui.
Puis ce qui explique pourquoi on se ramasse quand même avec régulièrement des gens qui viennent en clinique pour avoir d'autres traitements parce qu'ils ont déjà essayé en vente libre l'acétaminophène puis un anti-inflammatoire quelconque. Ce qui nous amène au triptan, des médicaments qui existent depuis plusieurs années, genre début des années 90, mécanisme d'action là, des agonistes, des récepteurs 5-HT1, B ou D. Beaucoup de lettres quand même possibles là, dans les récepteurs 5-HT1. Beaucoup de chiffres après ça possibles dans les récepteurs 5-HT. C'est fatigant. Je vais vous le dire. Mais en gros, là, on pense que ça a là, un effet vasoconstricteur puis que ça inhibe la libération de certaines des substances là, dont on a parlé en début d'épisode, Madame Hébert. Bon, malgré tout, la science disponible, heureusement, nous montre que les triptans ont une efficacité là, par rapport au placebo. J'utilise depuis longtemps, là, il y en a des tonnes, des revues systématiques, puis tout ça, mais la vérité, c'est que la majorité des revues systématiques un peu récentes dans le monde du traitement de la migraine, ou que ce soit des triptans ou de l'ensemble des agents, ils se ramassent souvent à faire des revues systématiques, des méta-analyses en réseau sur leurs revues systématiques. Donc, des méta-analyses, on vient inventer des comparaisons en utilisant des études qui ne comparaient pas les dix traitements entre eux. Plus ça rajoute ça, là, une complexité, une incertitude sur la validité des résultats importantes. Fait que je remonte souvent à une vieille méta-analyse qui date de 2004, publiée par un certain Ferrari collaborateur, qui incluait 53 études randomisées, contrôlées, pour plus de 24 000 participants, dans lesquelles les triptans étaient comparés à un placebo. Fait qu'on retourne là vraiment au bon vieux concept d'étudier un médicament contre un placebo, puis ils n'ont pas essayé de comparer les différents triptans entre eux. Puis au bout du compte, quand on regarde cette méta-analyse-là, il y a des beaux graphiques là, qui nous montrent l'effet, que ce soit sur le taux de réponse à 2 heures ou le taux de soulagement complet à 2 heures, puis les autres issues. On voit que toutes les triptans ont l'air de grosso modo donner la même affaire, avec à peu près des taux de réponse à 2 heures pour les triptans oraux d'autour de 60%, puis des taux de soulagement de la douleur complet à 2 heures d'environ 30%, alors que dans les groupes placebo, on avait des taux de réponse à 2 heures plus autour de 20-25%, puis des taux de soulagement complet à 2 heures le plus entre 10 et 20%, grosso modo. Fait qu'on est pas mal tout le temps dans ces chiffres-là. Quand on calcule des NNT là-dessus, on sort des NNT pour une réponse à 2 heures de 3-4 pour les triptans, puis des NNT à 4 et 5 pour le soulagement complet.
Quand même.
Fait que des chiffres qui sont pas mauvais, peut-être, puis on se rappelle, c'est pas des comparaisons entre les agents, mais le fravitriptan puis le naratriptan semblent potentiellement s'en sortir un petit peu moins bien. Fait que ça démarque quand même du placebo, mais ont des chiffres absolus dans leurs propres études qui semblent être peut-être un peu moins bons. Faut se rappeler que ce sont deux triptans qui ont des particularités pharmacocinétiques, c'est-à-dire qu'ils prennent plus de temps à agir, mais qui agissent plus longtemps. C'est des produits qui ont des demi-vies significativement plus longues que les autres triptans. Fait que, tu sais, quand on regarde les issues à 2 heures, ben, on peut imaginer qu'il y a un lien ici à faire. C'est pour ça que souvent, dans les références sur les migraines, les triptans, on va voir des trucs comme, ben, en termes de choix de triptan initial, n'importe lequel est possible. Par contre, dans le cas de patients qui présentent une migraine typiquement très longue, on pourrait favoriser à ce moment-là le naratriptan ou le fravitriptan, vu leur durée d'action plus longue. Je comprends l'idée. On dirait qu'en même temps, j'ai toujours été un peu ambivalent sur cette recommandation-là, parce que même quelqu'un qui ferait des migraines qui durent, mettons, je sais le moins 48 heures sans traitement, ben, j'ai quand même le goût d'essayer de le soulager le plus rapidement possible. Fait que pour le fravitriptan, naratriptan, peut-être une niche un peu particulière. Pour les autres triptans, par contre, là, en termes d'efficacité, ben, il n'y a rien qui semble se démarquer. Des petites choses, donc, qui peuvent nous aider peut-être à faire un choix de traitement, là. Je sais pas de votre côté, comment vous faites ça. Clairement, bon, je suis un gars économe, n'est-ce pas? En termes de prix, bon, on est tous rendus avec des génériques, on est tous rendus avec des produits couverts, sauf pour le fravitriptan par la RAMQ. On parle de médicaments maintenant qui coûtent quelque part entre 2 et 4 $ par dose. Fait que là encore, peu à utiliser comme information. Après ça, on peut penser aux formulations. On a certains, on le sait, qui sont disponibles en comprimé à dissolution rapide. Puis ça, ben, des fois, les gens ont l'impression que quand ça se dissout rapidement, ça agit plus rapidement. Non, non, ça fait
Ça
pas
donne cette
ça.
impression.
Ça fait pas ça. En fait, pourquoi ça existe, les comprimés à dissolution rapide? C'est pour pouvoir le traîner dans ta poche ou dans ta sacoche, puis pouvoir le prendre sans avoir besoin d'un verre d'eau, là. Bon, ça vient avec un prix aussi qui est associé. Après ça, bon, on a certains triptans qui sont disponibles en vaporisateur nasal. Ici, effectivement, en termes de délai d'action, il y a probablement un petit quelque chose, mais en termes d'efficacité, là, ça semble similaire. Peut-être intéressant pour les patients qui ont beaucoup de nausées ou de vomissements. Ce sont évidemment des produits qui sont plus chers, qu'on parle plus de 15 $ la dose, grosso modo. Puis on a notre fameux sumatriptan sous-cutané en injection, qui, lui, faut le dire, est non seulement plus rapide, mais semble être vraiment même plus efficace. Fait qu'on a là des taux de réponse jusqu'à 70% dans les études, ce qui se traduirait par un NNT à 2. Fait qu'il y a l'air d'avoir quelque chose de plus vraiment au niveau thérapeutique. C'est évidemment un traitement qui est un peu plus compliqué et qui est aussi plus cher. Qu'on est quelque part le plus autour de 30-35 pièces la dose, mais quand même à pas négliger là, tu sais, quand on travaille avec des patients, qu'on essaie des fois un, deux, voire plus que ça, triptan, le sumatriptan injectable devrait apparaître à un moment donné dans nos idées là. Ça, c'est clair. Sinon, ben, chaque triptan a ses petites particularités là qu'on couvrira pas aujourd'hui, là, notamment au niveau des interactions, des cytochromes, des ci, des ça. Mais là, on est vraiment dans des cas d'espèce que même si j'en parlais là, clairement, je pense pas que ça sortient super bien. Fait que pour aller voir au besoin. Fait qu'on en essaye un. Clairement, on a beaucoup de choix. Si ça fonctionne pas, malgré quelques essais, ben, on en essaye probablement un autre, hein, j'imagine c'est ça que vous faites aussi. Fait que
Ouais.
si c'est pas vraiment de la science, là, c'est de l'essai. C'est de l'essai. Fait qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais effectivement, je pense que l'histoire nous a montré que, comme pour plein d'autres médicaments, là, comme les IPP, comme les inhibiteurs de la PDE5, comme je sais pas quoi, ben, même si la science ne démontre pas qu'un traitement est significativement plus intéressant qu'un autre, ben, des fois, on a un patient qui semble mieux répondre ou mieux tolérer un traitement qu'un autre. Pourquoi pas? On voit même des ordonnances, des fois, je ne sais pas si vous voyez ça encore, là, vous autres, notamment plus dans les cliniques de neurologie, dans les cliniques de céphalée, mais des médecins spécialistes qui, j'imagine, parce qu'ils ne font pas des suivis super fréquents, ils ont pas la capacité de faire ça avec leurs patients, vont d'emblée, des fois, mettre deux triptans même sur l'ordonnance pour donner justement l'essai aux patients, ce qui me paraît pas farfelu.
Non, ça se justifie très bien. C'est un traitement symptomatique. Si le patient essaie le premier triptan, ça ne fonctionne pas, ben il peut essayer le deuxième sans avoir une consultation dans quelques semaines ou quelques mois.
Pourquoi pas?
J'aurais pas pensé faire ça. C'est une bonne idée.
Ben ouais, pas fou, pas fou. Sinon, en termes de tolérance, ben, ce sont des médicaments qui sont pas nécessairement super bien tolérés. Ce que je veux dire par là, c'est que si on sort la liste des fins désirables, là, des choses que vous avez déjà entendues certainement, là, flushing, bouffée de chaleur, somnolence, nausées, vomissements, le fameux syndrome de triptan là, qui peut s'apparenter rapidement à des symptômes d'infarctus, genre, là. La pression au niveau du thorax ou sensation de pression au niveau du cou, puis ces affaires-là. Fait que, ça semble pas super bien toléré quand tu sors, mettons, la monographie. Ces effets secondaires-là ont quand même des taux d'incidence là, relativement élevés. Mais on traite une migraine ici. Fait que c'est bien, bien rare. Moi, en tout cas, je ne sais pas vous autres, mais c'est bien rare que j'ai des patients qui se plaignent des fins indésirables au bout du compte avec ces médicaments-là. Fait que voilà pour les triptans. Peut-être un petit mot sinon pour l'histoire du syndrome sérotoninergique. On dirait que je ne sais pas à quel point c'est encore d'actualité, là.
Je pense que c'est encore beaucoup véhiculé par certains cliniciens.
Ah ouais, c'est vrai?
Oui.
Fait que tu sais, ça remonte à 2006. Il y avait eu un fameux black box de la FDA suite à la publication de 29 rapports de cas de possibles syndromes sérotoninergiques chez des gens qui avaient pris à la fois un triptan et un ISRS ou un IRSN. Fait que là, bon, il y a eu plein d'inquiétudes par rapport à ça au fil des années. Puis bon, ça joue au niveau sérotoninergique sur les fameux récepteurs 5-HT, n'est-ce pas? Mais finalement, au bout du compte, là, il y a des gens qui ont réanalysé tout ça, notamment l'American Headache Society qui a fait des publications là-dessus, puis qui ont conclu que sur les 29 rapports de cas, ben, il y en a en fait aucun qui semblait correspondre aux critères diagnostiques réels de syndrome sérotoninergique. Fait que au bout du compte, puis avec le recul depuis ces années-là, ben, pas clair, là. Qu'il y a un risque quelconque ici là, de syndrome sérotoninergique secondaire à la prise d'un triptan. Clairement, je pense qu'en 2025, pour un patient qui prend un ISRS ou un IRSN et qui souffre de migraine, qui est rendu à un triptan, fait qu'il ne tolère pas, qui ne répond pas à de l'acétaminophène ou à une ANS, ben, c'est tout à fait approprié d'essayer un triptan.
Ouais, 100%.
Ensuite de ça, ben, il y a l'idée de combiner les ANS et les triptans. Puis ça, je sais pas, en pratique, j'ai l'impression, en tout cas, je suis biaisé par mon petit milieu de pratique, puis tout ça, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas très proactif sur cette idée-là. Puis tu sais, tu parlais tantôt de la revue systématique de l'American College of Physicians, là, qui a été publiée un peu plus tôt cette année. Oli, ça vient aussi avec une espèce de guide de pratique.
Oui.
Puis je sais pas si tu as remarqué dans la formulation de leurs recommandations, d'ailleurs. C'est quelque chose comme... Ajouter un triptan à un INS. Fait que je pense qu'ils ont voulu mettre l'emphase justement sur cette idée-là. Puis oui, on a de la science qui va dans ce sens-là clairement, qui nous montre que la combinaison INS et triptan est plus efficace que la monothérapie d'INS ou la monothérapie de triptan. Il y a plusieurs études sur le sujet là, qui, selon l'étude, montrent des effets là, un peu variés. Mais mettons, je vous donne un exemple, là, probablement la plus grosse, une étude qui incluait au total là, presque 3 000 participants qu'on a randomisés à du naproxène, du sumatriptan, les deux ou un placebo. Puis on le voit clairement, là, quand on regarde, par exemple, le taux de réponse à 2 heures, le soulagement significatif, ben quelque chose comme 30% des gens sur placebo sont améliorés, un peu moins de 45% des gens sur naproxène, Un peu plus de 50% des gens sous sumatriptan, puis plus de 60% des gens sous la combinaison sumatriptan-naproxène. Avec le même genre d'effet, là, avec des chiffres plus petits pour le soulagement complet de la douleur. Puis c'est ce qui a mené d'ailleurs à. C'est pas un produit qui a fait beaucoup de bruit parce que bon, il est pas couvert, il est plus cher, puis effectivement, je suis pas sûr de l'intérêt, mais le Suvexx, pas ça vous dit quelque chose? C'est une combinaison de naproxène sodique 500 mg et de sumatriptan 85 mg. C'est niché comme dose, mais c'était ça la dose justement dans la dite étude. Fait que c'est un produit combiné qui existe au Canada. Mais bon, on peut aussi juste prescrire l'un et l'autre. Fait que je sais pas, il y avait-tu d'autres choses qu'on venait mentionner sur les triptans?
C'est intéressant parce qu'on parle souvent de co-analgésie à plein de niveaux, dans plein de pathologies, mais ça, la combinaison INS et triptan, on dirait que ça s'est comme perdu, là.
Ben,
Parce
c'est
que moi,
intéressant
en tout
parce
cas, je
que.
pense pas spontanément, puis j'étais un peu comme surprise que tu dises ça, là.
Je trouve ça drôle que tu dises que c'est intéressant parce que dans d'autres domaines, puis tout ça, puis c'est doublement intéressant parce que dans les autres domaines, probablement, auxquels tu fais référence,
On n'a pas de
à
science.
l'inverse, la co-analgésie relève pas mal de la sorcellerie.
Ouais, c'est ça.
Pourtant, on l'utilise tout le temps.
Ouais. Ensuite de ça, dans le traitement aigu, ben, on a nos gépants. Fait qu'on a fait des épisodes sur les gépants. On a des gépants en prophylaxie, mais on a aussi des gépants maintenant en traitement aigu de la migraine. Actuellement disponible, on a l'ubrogépant et le rimégépant. Vous pourrez écouter les épisodes au besoin, là, mais grosso modo, l'ubrogépant, t'sais, on a des belles revues systématiques d'études randomisées contrôlées sur le sujet qui nous montrent que soulagement à 2 heures chez grosso modo 60% des gens contre grosso modo 50% des gens dans le groupe placebo. Soulagement complet de la douleur à 2 heures, 20% des gens avec l'ubrogepant contre à peu près 13% dans le placebo. Fait que des chiffres qui, somme toute, semblent être similaires ou même peut-être un peu moins bons que les triptans. C'est pas clair. Il y a malheureusement pas de vraie étude là d'envergure randomisée contrôlée. On a comparé un gépant à un triptan comme l'ubrogépant. Il y a des choses intéressantes quand même avec les gépants. Premièrement, ben en termes de tolérance, faut quand même leur donner là. C'est des produits qui semblent être assez bien tolérés dans les études là. Peu de choses problématiques qui sont sorties pour le moment. Faut se rappeler quand même, on en avait parlé dans les épisodes en question, mais les études ont des limites là. C'est majoritairement des études à dose unique, quand même spécial, là. Fait que c'était genre, on donnait une dose d'ubrogepant ou une dose de placebo aux gens, puis on leur disait si dans les X prochains mois, à un moment donné, vous avez une migraine, ben prenez ce qu'il y a dans votre peau. Puis on se base là-dessus pour tirer nos résultats. Bon, on fait ce qu'on peut avec la science qu'on a. Mais des produits, bon, qui viennent ajouter une option à nos patients migraineux, des produits qui sont nouveaux, qui n'ont pas de générique, qui viennent donc avec un prix. Là, dans le cas de l'ubrogepant, on est autour de 15 $ par dose, c'est pas remboursé par la RAMQ. Dans le cas du rimégépant, c'est des comprimés à dissolution rapide, donc un peu plus cher, on est un peu plus de 20 $ par dose. Mais quand même, on l'a vu, nos chiffres avec les triptans, même avec la combinaison triptan-INS, c'est pas parfait. Puis c'est ce qu'on voit en pratique. On en a des patients qui ont essayé plusieurs triptans, qui ont essayé la combinaison, puis qui réussissent pas à avoir un soulagement le fun. Fait que l'arrivée des gépants sur le marché, quand même, ça nous a amené une nouvelle option, alors qu'on frappait rapidement un mur, je pense, là, chez bien des patients.
Clairement.
Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, je pense, sur les gépants, là. Fait qu'évidemment, pour le moment, on se fait informer que c'est des produits qui viennent pas avec des risques de céphalées d'origine médicamenteuse, puis de ça, on pourra en parler dans un des 2 prochains épisodes. Je suis pas sûr qu'on ait énormément de recul, par contre, pour dire ça. On parle aussi de la possibilité d'utiliser ces produits-là chez des gens avec des problèmes cardiovasculaires, contrairement au triptan. En même temps, dans ces études-là, ben devinez qu'est-ce qu'on a fait avec les patients avec une maladie cardiovasculaire? Ben,
Ils
on
ont été
les a
exclus.
pas laisser rentrer exactement. C'est des produits avec lesquels on n'a quand même pas une tonne de recul. Fait qu'il y a-tu des nouvelles affaires à un moment donné qu'on va découvrir avec le temps? L'histoire nous le dira. Fait que des questions, mais quand même, une nouvelle option. Puis, je sais pas vous autres, là, je pense qu'on commence à le voir tranquillement, pas vite en pratique. Puis, ben, tant mieux. S'il y a des patients qui ont trouvé une option qui finalement les aide. À noter que les chances de répondre aux gépants semblent être indépendantes de la réponse antérieure au triptan.
Oui, ça c'est quand même intéressant.
Fait que c'est pas parce que tu as échoué à plusieurs triptans là, que tu as moins de chances de répondre à un gépant. C'est quand même une bonne nouvelle. Puis finalement, ben, une information utile sur les gépants. L'ubrogépant a été étudié dans une étude randomisée contrôlée en bonne et due forme lorsque pris durant le fameux prodrome dont tu parlais, Isa, en début
Ben oui.
d'épisode. Fait qu'il faut savoir qu'il y avait un peu de tests qui avaient été faits avec d'autres médicaments. Donc, l'idée de prendre le médicament, pas juste au moment où ça commence à faire mal à la tête, mais dès qu'il y a un symptôme prémonitoire qui apparaît, puis c'était peu concluant. Puis là, ben, l'ubrogepant, on l'a testé, comme je dis ici. Fait que dans le Lancet, une étude d'un peu plus de 500 participants là, qu'on avait randomisé à la prise du brogépan ou un placebo là, au moment du prodrome. Puis grosso modo, là, on avait un peu moins de 50% des gens qui ont pris le brogépan qui avaient une absence de céphalée dans les 24 heures qui ont suivi, contre 30% dans le groupe recevant le placebo, ce qui donnerait un NNT là, quelque part à 7, 8. Fait que pour la première fois, une étude randomisée contrôlée, minimalement d'envergure, qui vient démontrer l'utilité d'un médicament pris pendant le prodrome. Puis tu sais, même Laura, tu sais, on n'avait pas rien de bien ben concluant là-dessus. Fait que typiquement, dans le counseling, ce qu'on disait à nos patients, en tout cas, j'imagine que vous faisiez comme moi, là, c'était le fameux conseil de dire, ben, prenez le médicament, que ce soit un INS ou un triptan, vraiment au début de la céphalée à proprement parler, là. Bon, après ça, le patient veut le prendre un peu avant s'il connaît son affaire, puis le temps que ça soit absorbé, là. Mais tu sais, il n'y avait vraiment pas l'idée de le prendre dès l'apparition des premiers symptômes, tous symptômes confondus. Alors que là, avec au moins les gépants, à quel point c'est extrapolable à d'autres molécules, je ne peux pas vous dire, mais avec au moins les gépants, on peut effectivement conseiller à notre patient d'essayer son gépant dès l'apparition des premiers symptômes, puis voir si ça permet de prévenir finalement le développement d'une migraine.
Quand même intéressant.
Not bad. Not bad. Fait qu'on en est là pas mal pour les gépants. Comme je dis, il y a plein de questions encore en suspens, puis on a probablement plein de choses à apprendre encore sur ces molécules-là, mais des molécules intéressantes qui permettent d'offrir des options supplémentaires à nos patients migraineux.
Belle avancée.
Tout à fait.
Sinon, ben, je pense que là, on voulait glisser un petit mot sur des trucs clairement moins nouveaux. Qu'on utilise encore parfois pour aider nos patients migraineux, notamment les antagonistes dopaminergiques.
On pense méthoclopramide, dompéridone, prochlorperazine surtout. On les utilise surtout pour leurs propriétés antiémétiques, en combinaison avec d'autres analgésiques quand les patients nous rapportent des nausées ou des vomissements. Il y a certaines données qui laissent peut-être croire que les antiémétiques pourraient aussi favoriser l'absorption des analgésiques, mais là, c'est pas basé sur une science très, très solide ici. Il y a aussi quelques études qui semble démontrer un effet positif sur les migraines, puis pas juste sur les nausées avec le méthoclopramide puis le prochlorperazine, surtout sur leur forme IV à l'urgence. Donc, il y a quand même un peu de science à ce niveau-là.
Ça fait quand même être clair là, dans ce que tu dis. Fait que si on parle vraiment de l'idée d'utiliser du méthoclopramide ou de la prochlorperazine dans le but de soulager la migraine là, et pas juste du tout d'enlever les nausées et vomissements là.
Exact. Il y a quand même une certaine science qui supporte cette pratique-là.
Oui, il y a plusieurs études randomisées contrôlées. Là, on avait sorti notamment une revue systématique de 2023. Il avait trouvé 16 études randomisées contrôlées juste sur le méthoclopramide là. Mais toutes des études avec du méthoclopramide injectable. En pratique, là où on stretch, je pense, là, c'est que parfois on va essayer le méthoclopramide oral. Moi, j'avoue que je me dis des fois, tu sais, puis on s'entend, là, je pense pas d'appliquer ça d'emblée à une tonne de patients, mais souvent on est mal pris, on manque de bonnes idées pour soulager nos patients. Puis, tu sais, je me dis tout le temps quand même que ton cerveau, là, une fois que le méthoclopramide est rendu dans ton sang, il sait pas, là, si tu te l'as injecté ou tu l'as avalé, là, soyons honnêtes.
Donc, ouais, non, c'est sûr qu'on peut extrapoler. Puis surtout, quand les patients, tu sais, ont des nausées, des vomissements, c'est une option intéressante. Là, après, on peut extrapoler ces données-là issues des données d'études à l'urgence avec la formulation IV. On peut l'extrapoler en se disant qu'on a certains patients, des fois, chez qui on est mal pris, on a fait plein d'essais médicamenteux. Donc, ça reste une option de traitement à considérer dans l'algorithme.
Parfait. Sinon, si on remonte à des affaires encore un peu plus lugubres, on parlait là en préparation d'épisode du fameux. Ça, quand même, si c'est dans mon top 4 de noms de médicaments préférés, le butalbital.
On dirait que je veux jamais le prononcer parce que j'ai peur de m'enfarger.
Pour vrai, ça coule si bien dans la bouche, le butalbital.
Ouais.
Mais ça marche-tu, ça, le butalbital?
Ben, en fait, on a une absence de preuve d'efficacité. Il n'y a pas d'études randomisées contrôlées qui a été publiée du butalbital ou de, à ma connaissance, tout autre barbiturique, là. Vous nous le direz, ceux qui nous écoutent, si vous avez connaissance d'une telle étude, mais nous, on n'en a pas trouvé. Donc, pas de preuve d'efficacité, profil d'effet indésirable, peu intéressant. Je pense que tout le monde le sait, là, les barbituriques sont particulièrement pas bien tolérés. Il y a un risque de dépendance, d'abus, il y a un risque plus élevé de céphalée médicamenteuse. Donc, pas mal toutes les lignes directrices s'entendent pour déconseiller l'utilisation de ce médicament-là.
Mais à ça, j'ajouterais que pas mal tous les patients qui en prennent s'entendent pour dire que c'est fantastique.
Ah, c'est merveilleux.
Je fais des blagues, évidemment, là, mais tu sais, le butalbital, pour ceux qui ne replacent pas, c'est ce qu'on retrouve dans le Fiorinal. Puis, ça m'a marqué à un moment donné, là, il y a peut-être une dizaine d'années, le prix de ce produit-là a comme triplé du jour au lendemain. Là, je ne me souviens plus les chiffres, là, mais c'est quelque chose de vraiment significatif. Puis, n'importe qui travaille en pharmacie communautaire va pouvoir vous dire que tu sais, il y a certains. Une personne, puis je les juge pas quand je dis ça, là, je comprends qu'on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, mais le prix du médicament va varier de quelques sous, puis on va se le faire dire, on va se le faire reprocher, puis tout ça. Ça m'avait fasciné à l'époque comment, malgré l'augmentation faramineuse là, du prix du butalbital, il y a personne qui me demandait de se débarrasser de ça là, pour autant. C'est un médicament qui semble être assez difficile à cesser. Fait que bref, butalbital, au-delà du nom fantastique, c'est non.
Bien retenu.
Parfait. On voit des patients aussi des fois qui se ramassent sous opioïdes pour le soulagement de leur migraine. Je pense que ça aussi, c'est quand même pas une idée à mettre trop souvent de l'avant, là.
Ouais. Ben, en fait, vous pouvez prendre ce que je viens de dire pour les barbituriques. Vous faites un copier-coller, puis ça s'applique quand même pas mal là, aux opioïdes. Le seul bémol, c'est qu'on a quand même des études randomisées, contrôlées, qui portent sur les opioïdes. Il y a certaines données positives, mais honnêtement, les résultats sont très inconstants selon les opioïdes qu'on choisit, selon les revues systématiques, selon les issues qui sont mesurées. Donc, il y a énormément d'hétérogénéité, puis il y a tout l'enjeu aussi de la tolérance qui peut être difficile, le risque de dépendance, d'abus, de céphalée médicamenteuse. Donc, évidemment, on essaie de pas partir ça dans nos premières lignes de traitement, là. C'est à éviter si possible.
Parfait. Sinon, tu sais, il y a des choses dont on n'a pas parlé, là, mais parce que c'est soit très, très, très niché ou soit peu recommandable. Mais si vous fouillez un peu, vous allez voir des trucs sur la caféine, hein, quand même, dont on entend parler des fois quand on parle avec nos patients migraineux. L'affaire qui est tricky avec la caféine, c'est que ça semble pouvoir faire tout et son contraire. Fait que ça fait partie aussi des facteurs potentiellement déclencheurs de la migraine. À l'inverse, le sevrage de caféine fait partie des possibilités. Ils ont fait des comprimés à un moment donné de différentes affaires qui incluaient de la caféine avec d'autres médicaments. Je pense pas qu'on a une science en date d'aujourd'hui qui nous permette de recommander ou de prescrire un produit qui contient de la caféine. Mais évidemment, la personne devant vous qui est migraineuse puis qui vous dit hey, quand je prends mon café, la vie est belle, ben prends ton café, j'imagine. Fait qu'on en est là pour la caféine. Après ça, là, on tombe dans des trucs. Par exemple, il y a un guide de pratique de la Société canadienne de céphalie là, qui avait été publié en 2014 sur la gestion de la migraine en urgence, là, en contexte d'urgence. Puis là, on va retrouver des trucs, oui, des trucs typiques comme les triptans, les AINS, les méthylclopramide des compagnies, mais des trucs comme la lidocaïne intranasale, la mépéridine, des positions contre l'allopuridol, le granisétron, les corticos, l'acide valproïque injectable. Ça existe même pas commercialement au Canada. Fait
Wow.
que, il y a d'autres affaires qui existent ou sur lesquelles il y a de la science, mais là, on tombe vraiment chez des patients très, très, très particuliers. Même chose pour les bons vieux dérivés de l'ergotamine. T'as connu ça, Isa, les dérivés de l'ergotamine?
Oui.
Les dérivés de l'ergotamine en 2025, pour de vrai,
Ben, vous êtes vraiment mal pris là, si vous êtes rendu à prescription.
pense qu'on peut oublier ça.
Ça me rassure parce que je ne l'utilisais pas.
Fait que voilà, ça fait le tour pour ce qu'on voulait jaser sur le traitement aigu de la migraine. Fait que prochain épisode sur le traitement prophylactique de la migraine. En attendant, évidemment, petit message habituel, s'il y a des questions, des plaintes, des critiques, des commentaires, vous écrivez à Oli. Sinon, ben, on s'en parle bientôt.
Salut!
Bye
Ciao, là!
L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.